Ami. Le podcast Guillaume Richardot, Franck Lefebvre.
Et moi j'aurais envie de te répondre,
Salut Guillaume, tu vas bien?
Vas-tu bien mon cher Franck?
Oui, je vais very well.
Bon, d'accord, très bien. Eh bien, alors, on a envie de parler d'un sujet. Bon, allez, c'est toi qui me l'as soufflé, mais ça tombe bien parce que j'avais des trucs à dire dessus. Quelque chose que nous n'avons pas dans la poche et qui pourtant pourrait être sonnante et trébuchante, c'est de la monnaie. Enfin, il n'y a pas que ça, mais on va parler des cryptos et entre autres des crypto-monnaies, je suppose.
Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des crypto-monnaies. Ça t'éveille quoi?
C'est plus la mode, elle a été remplacée par.
Eh ben voilà, je vais te dire, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. C'est parce que c'est plus la mode entre guillemets. Or pourtant, ça devient la mode, mais on n'en parle plus. Je trouve qu'il y a un truc bizarre sur cette histoire. Je t'explique. Petit résumé des épisodes précédents. Si jamais il y a des gens qui n'avaient pas débarqué, qui arrivaient de Mars après 15 ans d'absence sur la planète, il y a quelque chose.
Je veux bien les rencontrer, hein, ceux-là de
Mars. Il y a quelque chose qui a commencé à émerger il y a une dizaine d'années, qui s'appelle les crypto-monnaies. On peut revenir dessus. Le principe d'une crypto-monnaie. Le principe d'une crypto-monnaie, c'est d'utiliser des transactions électroniques et de la cryptographie très poussée pour enregistrer des transactions. Donc tout ça est très abstrait. On va essayer de rendre ça concret pour nos éditeurs. Pourquoi enregistrer des transactions? Et donc, pardon, pour enregistrer des transactions de façon très, très sécurisée. Ça veut dire quoi, enregistrer une transaction? Imagine, tu me prêtes 10 euros. Ben, si tu me prêtes 10 euros, je vais pouvoir prendre un papier et écrire, voilà, Franck Lefebvre doit 10 euros à la personne qui a ce papier-là. Et je te donne ce papier-là. Tu es d'accord avec moi?
Oui, c'est comme une reconnaissance de dette.
C'est une reconnaissance de dette et tu vois bien que là, j'ai bien dit que c'était Franck Lefebvre qui avait la dette, mais je n'ai pas dit à qui était la dette. Et il n'y a pas intérêt à ce que je dise à qui est la dette, parce que toi, une fois que tu as ce papier, en vrai, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons de créer une espèce de billet de 10 euros.
Mais c'est comme les bons porteurs alors un peu.
Mais c'est comme les bons porteurs. Mais à vrai dire, tu sais, c'est comme la monnaie aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que la grande majorité de nos auditeurs se font de la monnaie une idée un peu particulière qui est, moi, c'est celle qu'on m'a appris à l'école. On m'a appris que seul l'État avait le droit de frapper monnaie et que la monnaie, elle venait de la Banque de France ou du Trésor, en tout cas. C'est l'État qui frappait des francs à l'époque, puisque je suis né il y a quelques années. Mais on pourrait dire que c'est la BCE, je ne sais quoi, qui frappe les euros. Or, c'est pas vrai ça. C'est pas comme ça que ça se passe depuis bientôt 50 ans. Ce n'est plus comme ça que ça se passe. Hein. Si tu vas à la banque et si tu fais un prêt de 1000 euros à ta banque, les 1000 euros que tu vas avoir, que la banque va te prêter, va mettre sur ton compte, c'est pas 1000 euros qu'un déposant, que quelqu'un aura mis sur son compte. Pas du tout. C'est 1000 euros que la banque va créer elle-même dans ses livres. Elle va créer 1000 euros de monnaie basée sur le fait qu'elle a confiance en toi et donc qu'elle pense que tu vas lui rembourser. C'est exactement comme la reconnaissance de dette que je viens d'évoquer au début de notre conversation. Tu me suis?
Oui, jusque-là, je te suis.
Donc, on pourra un jour parler de la monnaie, parce que c'est vraiment un sujet passionnant.
Parce qu'en fait, finalement, l'argent, là, pour le coup, l'argent physique dans la transaction n'existe pas.
Mais, donc, si quoi, l'argent physique, toi, quand tu empruntes 1000 euros à ta banque, l'argent physique, il n'existe pas non plus. C'est-à-dire que quand on dit que les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles, oui, mais au même titre que les euros, si tu es à la Société Générale et si tu empruntes 1000 euros à la Société Générale, C'est de l'argent qui est aussi virtuel qu'une crypto-monnaie. C'est juste 1000 euros qui va avoir été mis dans les ordinateurs de la banque. On va mettre, voilà, sur le compte de Monsieur Richardot, 1000 euros et dette de Monsieur Richardot, 1000 euros. Mais ces 1000 euros, ils auront été créés par la banque à ce moment-là. D'accord? Et, mais tu vas me dire, mais il n'y a pas de limite à cette histoire-là. Mais, Il n'y a pas beaucoup de limites à cette histoire-là. Et ta seconde question va être, ben, quid des euros qui ont été créés par une banque centrale ou des monnaies qui ont été créées par une banque centrale? Eh ben, la monnaie qui est créée par une banque centrale, elle va être utilisée majoritairement dans deux cas. Le premier cas, c'est quand les banques entre elles vont se transférer de l'argent. Si moi je suis, toi tu es à la Société Générale, moi je suis au Crédit Mutuel, eh bien si je te fais un chèque de 10 euros, le Crédit Mutuel va devoir donner à la Société Générale 10 euros. Et à ce moment-là, ces 10 euros, ça peut bien entendu plus être des euros internes du Crédit Mutuel ou internes de la Société Générale, ce sont des euros Banque de France, ce sont des euros Banque Centrale.
Mais qui ne sont toujours pas physiques. Si tu me fais un virement, il n'y a pas de billet qui passe de ta banque à la mienne.
Non, ils ne sont pas physiques, mais eux, ils sont en nombre limité et connu. Tu vois ? Donc, c'est des euros plus. Et donc, je t'ai dit, il y a deux façons. Il y a deux euros Banque Centrale qui existent. Il y a celui-ci, il y a donc ce que les banques vont s'échanger entre elles. Et il y en a un autre qui est la monnaie que tu as dans ta poche. Puisque la monnaie que tu as dans ta poche, c'est toujours de la monnaie virtuelle parce que c'est que des bouts de papier, mais c'est de la monnaie, c'est également de la monnaie banque centrale. Donc, tout ça est tellement fluide et les transactions électroniques rendent ça tellement fluide qu'on a l'impression qu'un euro de notre compte, c'est la même chose qu'un euro sur un billet, sur une pièce d'un euro, ou la même chose qu'un euro quand on paie ses impôts. Pas du tout. Ce sont des monnaies qui sont complètement différentes. Sauf que la loi les rend complètement convertibles et l'électronique fait que c'est tellement fluide qu'on a l'impression que c'est la même monnaie. Mais ce n'est pas la même monnaie. Aujourd'hui, je crois que le taux de couverture monnaie banque centrale par rapport à la quantité de monnaie en circulation est inférieur à 5%. Tu vois ce que je veux dire ?
D'accord. Ça veut dire qu'il y a 5%. Moins de 5% de vraie monnaie qui existe par rapport à la monnaie virtuelle qui circule dans les tuyaux.
Absolument, absolument. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, dont on est, tant qu'on ne s'est pas intéressé au sujet, hein, dont les gens sont peu conscients. On a failli en être conscient en 2008-2009 parce que, imagine, moi, si je reprends l'exemple, hein, je suis dans une banque, tu es dans une autre banque, je te fais un chèque, eh bien les banques vont se devoir de l'argent. Et donc, tout de suite, toi, ton compte, il va être crédité instantanément. Pourquoi ? Parce que la société, pour reprendre l'exemple qu'on prenait, hein, la Société Générale a grande confiance dans le fait que le Crédit Mutuel va pouvoir la payer. Donc, le passage d'un compte à l'autre va être immédiat. Mais en vrai, comment ça se passe, ça ? Ça se passe dans ce qu'on appelle une chambre de compensation. C'est-à-dire que dans la chambre de compensation, je reprends mon exemple du chèque de 10 euros que je fais avec mon carnet de chèque du Crédit Mutuel pour que ça aille sur ton compte à la Société Générale. Eh bien, cette transaction-là, elle va être mise dans les ordinateurs d'une chambre de compensation. Et là, ça va être écrit que le Crédit Mutuel doit 10 euros à la Société Générale. Or, bien entendu, des transactions, il y en a des quantités phénoménales, donc il ne va pas y avoir transaction entre les banques à chaque fois, mais à intervalles réguliers, la chambre de compensation, elle fait le compte de tout ce que l'un doit à l'autre, et in fine, il ressort un nombre de transactions très limité, qui va être que la différence entre ce qui est passé du compte A au compte B et du compte B au compte A. Tu me suis toujours ?
Je te suis toujours. Et là, à ce niveau-là de notre podcast, j'ai envie de te poser une question parce qu'on va revenir à notre sujet initial. Si moi, je te fais un virement, ou toi, tu me fais un virement comme tu veux, on est d'accord qu'il n'y a pas d'échange de monnaie réelle, hein, on parle d'euros. Mais alors, la crypto-monnaie, c'est quoi la différence? Parce que là non plus.
D'accord, je vais revenir dessus.
Je vais
revenir dessus. Tu penses bien qu'on essaie de mettre tout ça dans une certaine logique pour rendre. Je comprends que ce dont nous parlons, c'est compliqué, mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir.
Non, mais là, c'était très clair, très bien présenté.
Essayons d'avancer. Et donc, cette chambre de compensation, d'ailleurs, une des plus grandes chambres de compensation européenne, a un nom qui rappellera pas mal de choses à ceux qui aiment l'information. Il y en a une qui s'appelle Clearstream, par exemple.
Et oui. Attention,
quand on parle de Clearstream, c'est lié à une fameuse affaire financière. Ça ne veut pas dire que les gens de Clearstream sont des escrocs, mais ça veut dire que c'est un endroit dans lequel passent vraiment des quantités phénoménales d'argent. Bon, ça sera peut-être l'occasion d'une autre causerie. Pour l'instant, je te propose qu'on reste dans cette idée. Donc, tu comprends bien que en définitive, l'argent n'est pas ce qu'on appelle l'argent. Ça ne va pas être des choses physiques qui vont passer de toi à moi, ça va être juste des écritures, des transactions du genre « Franck a donné 10 euros à Guillaume ». D'accord ? Et donc, on peut dire que aujourd'hui, de toute façon, l'argent, c'est devenu ça. Et donc, qui a le droit de passer ce genre d'écriture ? Eh bien, exclusivement les banques et donc les gens, les entreprises qui ont des agréments spéciaux qui leur sont conférés par l'État et qui font que il y a des entreprises qui ont le droit de faire ce type de transaction. Si toi t'arrives comme ça en disant tiens je vais créer la banque Guigui, eh ben la banque Guigui tu pourras pas rentrer dans le système, donc tu pourras pas passer les transactions. Il faut avoir les agréments qui vont bien, etc. Et donc, il y a quelques années, il y a des gens qui se sont dit « Ah, mais en définitive, on pourrait parfaitement avoir un système comme ça qui travaille à peu près sur le même principe, mais dans lequel la validation des transactions ne serait plus associée au fait que les établissements qui les font ont les agréments qui vont bien et sont garantis par les États. » Mais ça pourrait parfaitement être fait en mode pair à pair, en mode peer-to-peer, et utiliser le réseau lui-même pour sécuriser, pour valider ces transactions. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que moi, je donne 10 euros, Franck donne 10 euros à Guillaume, eh bien, c'est cette transaction, ce truc-là, on peut parfaitement le mettre dans un ordinateur, Et puis fabriquer une monnaie comme ça. Sauf que si je le mets dans un ordinateur, eh bien, s'il y a un petit malin qui va dans cet ordinateur, il va pouvoir bricoler les choses et fausser les transactions, ou bien moi-même, je vais pouvoir créer des fausses transactions. Et donc, il y a un système extraordinaire qui a été créé pour éviter ça, qui est ce qu'on appelle la blockchain. Le principe de la blockchain, c'est assez simple. C'est que à chaque fois que l'on écrit une transaction, eh bien, on va calculer, donc par des méthodes de cryptographie, on va calculer un nombre indévinable qui va être, écoute-moi bien, qui va être approximatif, quoi, qui va être calculé à partir des informations de la transaction que l'on passe et du résultat obtenu par la transaction précédente. Tu vois, c'est-à-dire que chaque transaction va générer un code, un très grand nombre, un nombre indévinable, qui va être fonction de la transaction elle-même et du code qui a été généré sur la transaction précédente. C'est-à-dire que toutes les transactions comme ça se tiennent les unes aux autres, ce qui fait que tu as, dans cette grande liste que tu obtiens, tu ne peux pas en changer une au milieu. Car si jamais tu en changeais une au milieu, eh bien, il faudrait changer toutes les suivantes. Et comme le principe de la blockchain, c'est de faire en sorte que ces calculs, qu'on va appeler des validations, se trouvent répartis sur plein d'ordinateurs, donc avec des systèmes de consensus qu'on va pas décrire ici, mais retenons pour essayer de rendre ça pas trop trop complexe tout de même, que c'est réparti sur plein d'ordinateurs, ce qui fait que si jamais on veut un petit malin voulait changer une transaction, il faudrait qu'il change non seulement toutes les transactions suivantes, mais sur tous les ordinateurs, ou en tout cas sur la moitié des ordinateurs.
Donc il y a une redondance en fait.
Donc il y a une redondance énorme. Et il y a une, donc tu peux dire une redondance, mais la redondance, on pourrait penser qu'il y a un truc central qui est dupliqué. Il y a surtout ce qu'on appelle en informatique une distribution, c'est-à-dire que le système est complètement distribué entre plein de validateurs de ces chaînes. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique là ?
Oui, je comprends ce que tu m'expliques, mais après la finalité, la grande différence entre l'échange de cet argent et l'échange d'un euro, de 2 euros par exemple, c'est que là, pour le coup, c'est pas géré par l'État.
Donc c'est géré par personne, c'est-à-dire que ce sont des espèces. Tu vois, d'ailleurs, ne nous trompons pas, hein, les gens qui créent ces systèmes c'est toujours associé, comme beaucoup en informatique. Un jour, il faudrait qu'on fasse des émissions sur le sujet. Il y a énormément de production informatique qui est associée à des idéologies des gens qui le font. Et on peut croire que l'informatique, c'est de la technologie. Moi, j'ai tendance à croire que très souvent, en tout cas chez les gens les plus créatifs, c'est une mise en œuvre de systèmes de pensée et d'idéologie. On en a parlé il y a quelques mois quand on a parlé du bouquin de Fred Turner. Bref, effectivement, tu as une espèce d'anarchisme derrière qui est que ces gens-là se sont dit, mais c'est la base de l'Internet aussi, hein, la distribution des processus, dire voilà, on ne veut pas qu'il y ait un système central qui régente tout. On veut que ça soit complètement distribué dans une espèce d'hyper-démocratie. Je mets ça entre guillemets parce qu'il y a plein de gens qui pourraient valablement remettre en cause cette expression. En tout cas, il y a une idéologie derrière. Et donc, qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies ? Eh bien, les crypto-monnaies, ce sont des blockchains que des gens créent. La plus célèbre, c'est le Bitcoin, hein, ou la blockchain Bitcoin qui a été créée. Donc, tout le monde connaît la légende de Satoshi Nakamoto, qui est cette personne non identifiée. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est un groupe de personnes, il est complètement anonyme. Mais il a posé toutes les bases technologiques de la blockchain et de la création des tokens Bitcoin pour faire cette monnaie, qui est une monnaie, j'espère que vous aurez bien compris, qui n'est pas plus virtuelle que l'euro, par contre, qui est beaucoup plus décentralisée que l'euro. Et donc, pourquoi ça me tentait de parler de ça aujourd'hui ? C'est parce que on a énormément parlé en 2022, fin 2022, on a énormément parlé du Bitcoin parce que le Bitcoin avait, donc on parle de la valeur du Bitcoin. En vrai, on ne devrait pas parler de la valeur du Bitcoin, on devrait parler de la valeur d'échange du Bitcoin. Quelle est la valeur d'un Bitcoin ? Ben, c'est comme la valeur d'une voiture ou la valeur d'un kilo d'orange. C'est le prix auquel quelqu'un, c'est le prix qu'un client, qu'un acheteur est prêt à payer et qu'un vendeur est d'accord également pour que la transaction ait lieu. C'est que ça. C'est un libre marché, si tu veux. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le prix du Bitcoin, c'est pas un truc qui est fixé par quelqu'un qui régenterait le système. C'est juste le prix du marché. C'est qu'il y a des gens qui sont d'accord pour payer 1 euro, 10 euros pour avoir un exemplaire de cette crypto-monnaie. Or, c'est comme les euros, hein. Si tu convertis des euros en dollars, en vrai, il y a pas de valeur absolue. La valeur d'un dollar, si tu as des euros et si tu veux acheter un dollar, eh ben, ça va être le prix auquel un type qui a un dollar est d'accord pour te vendre son dollar et que tu lui donnes en échange ton euro.
Bah, donc, alors, moi, j'ai quand même envie dans tout ça de te poser la question qui fâche pas, mais qui m'interroge, moi, en tant que j'écoute Franck Lefebvre et c'est très bien raconté, mais quelle est l'utilité du Bitcoin et qu'est-ce qu'on peut faire avec des Bitcoins ? Je crois beaucoup de choses maintenant, mais l'utilité par rapport à des euros ou des dollars, c'est quoi ?
Eh ben, je serais tenté, la même chose qu'un euro, un dollar ou un kilo d'or ou un kilo d'argent. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ce n'est qu'une valeur d'échange en vrai. Tu vois, l'or, par exemple, ou l'or ou le diamant sont des produits qui valent très cher, équivalent. Le diamant est un bon exemple. Ça vaut très cher juste parce qu'il y a des gens qui sont d'accord pour l'acheter à ce prix-là. Tu n'as pas de valeur intrinsèque. À la limite, un kilo de patates, tu peux dire que la valeur d'un kilo de patates, c'est lié à la valeur, comme tu as besoin d'en manger absolument, parce que tu as besoin d'hydrates de carbone, parce que ton organisme est fait de telle façon qu'il faut de l'énergie si tu veux pas mourir, eh ben, là, on peut dire qu'il y a une espèce de valeur d'usage absolue du kilo de patates. Mais le diamant, si demain le diamant n'existait plus, hein, on vivrait aussi bien, hein, ça changerait pas grand-chose. En plus, on sait faire des diamants synthétiques quand on a besoin de cristaux de carbone très, très durs. Donc ça ne change pas grand-chose, ça. Donc, la même chose. Donc, aujourd'hui, à quoi le Bitcoin est-il utilisé? Il est utilisé beaucoup par des gens pour des raisons purement spéculatives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent juste « Ah ben voilà, le prix va augmenter, donc j'en achète et ça fait augmenter le prix puisque tu as plus de clients que de vendeurs. » Donc, c'est une prophétie autoréalisatrice comme on en a souvent en économie. Mais n'oublions pas l'idéologie qui est derrière et n'oublions pas, je jugeais utile tout à l'heure de rappeler comment fonctionnait la monnaie banque centrale et les banques parce que il y a des gens qui se disent « Ben voilà, ce système-là, en définitive, demain, il peut parfaitement casser. On peut imaginer demain que la confiance… » Oui, je te disais tout à l'heure, on a commencé, je disais en 2008-2009, à l'époque de la crise, celle qu'on appelle encore la crise des subprimes, eh ben, tu as eu pendant très très peu de temps, pendant quelques minutes, tu as eu une crise de rupture, tu as eu une rupture de confiance entre les banques françaises qui font qu'elles se sont dit « Oh là là, j'ai plus confiance, il y en a, la banque d'en face risque de casser ». Donc, je n'accepte plus les transactions. T'imagines, c'est catastrophique, parce que ça veut dire que l'économie se bloque. Et là, très, très vite, l'État agit en disant « Non, non, vous n'en faites pas, on garantit tout ce qui va se passer. » Et ça a redémarré le système qui s'est grippé pendant très peu de temps. Mais imagine si demain, le système se grippe parce que tu as une banque qui fait faillite, par exemple. Tu mets ta carte bancaire dans le terminal de paiement de ton boulanger et il se passe plus rien. Il y a plus de transactions. C'est-à-dire que l'ensemble du système se grippe. Et donc, il y a des gens qui se disent, ben voilà, moi, la probabilité pour que le système se grippe un jour, elle est pas nulle. Donc, comme j'ai de l'argent, eh ben, au lieu de mettre tout mon argent dans des euros ou dans des dollars ou dans des kilos de cacao, puisque le cacao grimpe beaucoup, eh ben, je vais en mettre une partie dans une crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que si demain le système financier mondial, pour une raison quelconque, se grippait, eh bien, les systèmes de crypto-monnaie, eux, ne seraient pas du tout impactés par ça. Et donc, ça pourrait devenir.
Et alors, il ne peut rien lui arriver au système crypto-monnaie?
Mais on peut jamais dire, il peut rien lui arriver. Mais en tout cas, il peut pas lui arriver la même chose puisque il n'est plus basé sur la confiance dans des systèmes qui ont été validés par des États, mais il est basé sur des algorithmes, il est basé sur de la preuve mathématique. Donc, tu peux te dire que tu fais plus confiance aux mathématiques qu'à la politique internationale. Et ça marche. Et donc, pourquoi je jugeais utile aujourd'hui
Attends, il y a une question à laquelle tu ne m'as pas répondu. Je me permets de te chatouiller. Je sais bien que tu aimes ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des bitcoins?
Mais si j'ai répondu, c'est-à-dire que tu peux en acheter et en vendre en te disant que tu peux en acheter.
Oui, ça, d'accord. Mais je veux dire.
Soit parce que ça va monter.
Je peux pas aller acheter mon pain avec du bitcoin.
Si, donc un certain nombre de trucs que tu peux acheter en bitcoin, mais il faut savoir que c'est pas fait pour, parce que c'est pas très pratique. C'est exactement le bitcoin est vis-à-vis de la monnaie électronique, un peu ce que l'or, donc toute relation, toute proportion gardée, ce que l'or est à la monnaie historiquement, où tu te dis, voilà, c'est une espèce de garantie, mais aller payer ta baguette avec de l'or que ton boulangerie pèserait, c'est pas très très pratique, c'est pas très liquide. Donc, pas très fluide en tout cas.
Oui, mais donc ça veut dire que le jour où j'ai... Imagine que le système bancaire... je dirais normal, enfin que tout le monde connaît, géré par les États, se pète la gueule. mais j'ai mes bitcoins, mais si je peux pas les ressortir en argent,
si. Quoi avec? Non, mais non, tu les ressors pas en argent, mais par contre, tu pourrais, c'est pas très pratique, mais tu pourrais payer ta baguette de pain avec, ça c'est certain. Et puis, comme je te dis que c'est plus aujourd'hui, le bitcoin est plus l'étalon des crypto-monnaies qu'autre chose, eh ben, il y a plein de systèmes qui permettent qui offrent des équivalences avec d'autres blockchains qui sont beaucoup plus faciles pour faire des transactions. On pourrait en citer une qui est le TON, par exemple. On pourrait un jour faire une émission sur le TON. Le TON, c'est cette blockchain qui a été créée par les frères Durov. Les frères Durov, ce sont les créateurs de Telegram, hein, longue histoire, et qui est quelque chose d'extrêmement léger et facile à mettre en œuvre, et qui fait que c'est très peu utilisé aujourd'hui, hein, mais si tu utilises le logiciel de communication Telegram, et si je l'utilise moi aussi, eh ben je peux, de façon instantanée, via ce logiciel, te transférer des tonnes, c'est-à-dire te transférer des jetons d'une crypto-monnaie qui est parfaitement recevable. C'est-à-dire que et je pense d'ailleurs que stratégiquement, c'est l'idée que les frères Durov ont, hein. Ils se disent, ben voilà, si demain le système est grippé, ou si demain dans certains pays, parce que nous on a une vision, n'oublions pas que nous sommes dans un pays riche dans lequel il y a un fort niveau de bancarisation et une grande fiabilité des institutions financières, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Donc, demain, on peut parfaitement imaginer que tu aies comme ça des blockchains alternatives qui utilisent le Bitcoin ou Ethereum ou en tout cas qui utilisent des crypto-monnaies comme ça très très réputées et solides comme étalons, mais qu'on ne fasse pas directement du commerce avec ces crypto-monnaies. Donc, pour répondre à ta question, on peut donc utiliser, il y a des gens qui utilisent, et aujourd'hui c'est une grosse partie qui utilise les bitcoins dans un but spéculatif, et il y en a qui l'utilisent dans un but idéologique, il y en a qui le font par sécurité, et il y en a quelques-uns qui le font pour faire des transactions, mais c'est très peu. Et donc, peut-être avant de terminer, mais tu vois, on pourrait faire des paquets d'émissions sur le sujet, hein, c'est passionnant. En 2022, le prix auquel le Bitcoin se vendait a cru de façon très très importante, puisque on est arrivé quasiment à 70 000 euros par Bitcoin. Et puis après, il y a eu ce prix-là, il s'est pas complètement écroulé, mais il s'est écroulé. Il a dû côtoyer les 15 000 euros, tu vois, donc sa valeur a dû être divisée au moins par 4, ou 5, 4, 5, 6, je sais plus. Et puis à l'époque, tout le monde en parlait, et puis quand ça s'est, quand le prix a baissé, ben, tous les gens qu'on avait parlé, et surtout dans la presse, je pense, ont eu un peu honte parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir fait de la publicité pour une espèce de pyramide de Ponzi. Mais depuis, les choses ont beaucoup changé. Et donc, la semaine dernière, le Bitcoin est repassé au-dessus du plus haut niveau qu'il avait atteint. Il est repassé autour des alentours des 70 000 euros. Ce qui veut dire que l'objet est loin d'être mort. Et puis, un autre jour, on pourra parler des nouveaux outils financiers qui ont été créés autour, et surtout de la façon dont les institutionnels, et c'est sûrement ça le grand changement dans le domaine des crypto-monnaies, c'est qu'il y a 2, 3, 4 ans, c'était un petit peu un truc de crypto-anarchiste, je sais pas quoi. Or, aujourd'hui, on sait que la grande majorité des transactions sont réalisés par des institutionnels, donc qui, après avoir refusé, après avoir freiné des cas de fer pour l'adoption des crypto-monnaies, qui remettent en cause une grande partie de leur légitimité, finalement, ils passent parce qu'ils ne veulent pas rater le truc. Et ça, je pense que ça change beaucoup de choses.
Oui, parce que je crois que maintenant, avec certaines banques françaises, tu peux acheter des bitcoins.
Je pense la complexité, si tu veux acheter des bitcoins, mais là on est parti pour des heures, hein, si on parle de ça, Guillaume, hein, si tu veux acheter des bitcoins, le vrai problème, c'est pas de l'acheter, parce qu'il existe un tas de plateformes très fiables pour faire ce type de choses. C'est que tu vas en faire quoi de ton bitcoin? Concrètement, souvenons-nous bien que le principe du Bitcoin, le principe des crypto-monnaies, c'est de n'enregistrer que les transactions entre eux. C'est-à-dire que, et donc cette transaction, elle va être associée à un numéro de compte que tu vas avoir. Et donc moi, si je te donne un Bitcoin ou un millionième de Bitcoin, eh bien, ça va passer de mon numéro de compte de mon numéro de compte à ton numéro de compte.
Donc quand oui, je dis bah, comme un virement compte, bancaire normal en fait.
Oui, mais sous le virement bancaire, il n'est pas public. C'est-à-dire que moi, si je t'envoie 10 euros, les gens ne vont pas savoir que je t'ai envoyé 10 euros. Ils vont pas savoir.
Oui, tandis que la transaction Bitcoin, elle est écrite dans le
absolument, c'est-à-dire que toi,
livre des transactions.
Oui,
et
si je t'envoie,
on saura que Franck Lefebvre a donné 10 euros à Guillaume.
Donc on ne saura que ça, Guillaume. C'est-à-dire que dans le système classique, la transaction, c'est-à-dire que le passage de A à B, de mon compte à ton compte, la transaction, elle va être oubliée, mais ce qu'on va garder, c'est que on va diminuer mon compte de 10 euros et on va augmenter le tien de 10 euros. C'est-à-dire que l'état de ton portefeuille va être connu au niveau de la banque. Le principe des crypto-monnaies, c'est l'inverse. On ne garde jamais l'état. On ne conserve que les transactions. C'est pour ça que c'est une solidité absolument incroyable. Et donc, la notion de compte, elle n'existe pas. La notion de compte, c'est que un chiffre que tu vas toi garder secret, que tu vas garder très très secret, parce que si tu le donnes à quelqu'un, eh bien, la personne va pouvoir accéder à ton compte et faire des transactions avec. Donc, tu vas le garder de façon très secrète. Et donc, qui va garder ces chiffres très secrets? Donc, ça peut être ta banque, mais aujourd'hui, ta banque, elle ne sait pas faire ça. Et attention, parce que si jamais ta banque, si elle gardait en ton nom ce numéro très très secret, ça voudrait dire que si demain elle se le fait piquer, eh bien il y a des gens qui vont réaliser des transactions sur ton compte, qui vont vider ton compte, et la banque ne pourra absolument rien faire. Tu vois, tu n'as pas de recours, puisque par définition, une transaction, une fois qu'elle est gravée, elle est gravée pour l'éternité. Donc, il n'est pas possible de prendre ça. Et d'ailleurs, c'est là-dessus, on a entendu parler ces dernières années d'énormes scandales qui ont eu lieu, dans ces scandales liés au fait que malversation ou manque de protection, il y a des paquets comme ça de comptes qui se sont fait vider, qui ont été, bon là, ça, il y a une véritable saga. On voit bien, en tout cas, que c'est très difficile de sécuriser un compte. Et donc, ça pourra faire, si tu veux, l'objet d'une autre causerie, on pourra parler de ces choses-là, mais souvenons-nous juste qu'aujourd'hui, les banques et les systèmes d'information de nos banques ne sont pas du tout pensés pour pouvoir gérer ce type de compte. Et donc, si tu achètes un Bitcoin dans ta banque préférée, eh ben, que devient ton compte? Ça, c'est une autre histoire.
Ok, bah écoute, on en reparlera, parce que c'est vrai que le sujet est passionnant, puis je pense que ça nous emmène un peu dans le futur de ce que deviendra l'argent, parce que comme tout le monde le dit et qu'on le sait, que dans quelques années, les billets et les pièces disparaîtront et qu'il n'y aura plus que des échanges entre guillemets virtuels, du coup, des monnaies comme le Bitcoin ou d'autres auront encore plus leur place légitime, et du coup, je pense qu'on pourra faire encore plus de choses avec. Voilà, là-dessus, on va se quitter parce que le temps qui nous était imparti est sûrement terminé. Mais mon cher Franck, c'est toujours un plaisir de faire ces causeries avec toi dans Ami, le podcast diffusé sur Tech Radio. Et si vous voulez nous faire des petits commentaires, déjà, vous pouvez faire les commentaires sur vos plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Et puis, au 01 76 21 18 10. Et je te dis donc, merci encore. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Ami, le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.